Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Chiang Mai en Thaïlande. Et oui, encore une fois, une autre destination un peu plus exotique que la dernière fois. Je suis de retour sur la route et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, notre ami Ploum nous rejoint. Bonjour Ploum.
Salut.
Comment vas-tu?
Bah, moi ça va bien, dans la neige, à mon avis tu dois pas trop en avoir, mais...
Non c'est ça, ça m'a fait un choc quand même quand je suis parti de Suisse et que j'ai quitté moins 5 degrés pour arriver à 25-30 degrés, donc même l'hiver ici c'est tout un truc. Donc, trêve de bavardage, passons au programme de cet épisode 20. Alors, on va parler. Alors, déjà, avant de commencer, je veux juste m'excuser d'avance pour les bruits qui pourraient intervenir en fond sonore. Comme je vous le disais, je suis à Chiang Mai en Thaïlande. Je suis dans le quartier de Niman, pour ceux qui connaissent. Et c'est un quartier assez populaire, mais on se demande pourquoi. Parce qu'il est juste sous le couloir de décollage des avions. À cette heure-ci, il y en a un qui passe à peu près toutes les 10 minutes. Donc je vais essayer de les couper techniquement. Mais ne vous étonnez pas si vous entendez des avions qui passent assez bas. Pour ce qui est du programme de cet épisode 20, on va, comme d'habitude, commencer par l'édito de Ploum. Ensuite, on parlera du courrier des auditeurs, puisqu'on a eu une nouvelle question, et puis je voudrais faire un petit follow-up sur la question de la semaine dernière. Et puis, comme d'habitude, on va repasser un petit peu sur l'actualité des deux dernières semaines. On parlera d'Ethereum, on parlera de Tron, on parlera de Lightning Network Bitcoin. On parlera aussi de conférences en France et en Belgique qu'il ne faut absolument pas rater. Et puis, un petit sujet concernant l'évolution du podcast. Je vous en dirai plus en fin d'émission. Mais comme je le disais, on va commencer d'abord par l'édito de Ploum. Ploum, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine?
Chers crypto-auditeurs de tout sexe, de tout genre et de toute couleur de gilet, bienvenue dans Proof of Cast, le podcast de la crypto en gilet jaune. Ah oui, enfin ils me font bien rire les Français avec leur gilet jaune. En Belgique, nous, tous les 4 ans, on a les rétroviseurs tricolores. Et ça, je peux vous dire que c'est d'une autre ampleur, ça, je le garantis. Mais allez savoir pourquoi, aujourd'hui, tout le monde veut mélanger gilet jaune et blockchain. Alors, peut-être parce qu'il s'agit de deux termes à la mode, alors on essaye à tout prix de les faire cohabiter. Honnêtement, je suis pas sûr de la méthode, parce que Kev Adam, Fabrice Luchini et les films de super-héros sont assez à la mode, mais j'ai du mal à les imaginer ensemble. Au contraire, j'imagine malheureusement trop bien. Alors, certes, il y a ce qu'on appelle, dans la gauche militante, la convergence des luttes. Alors, la convergence des luttes, c'est un peu le medley social. Imaginez l'accordéoniste de Debout sur le Zinc avec le guitariste d'Iron Maiden et Didier Super au chant, le tout version syndicale et manif. Ben, c'est la convergence des luttes. Et à titre d'exemple, on a les gilets jaunes contre l'augmentation du prix de l'essence, on a les vieux anglais racistes qui, pour le Brexit... et contre l'Europe, et on a les jeunes glandeurs belges pour sauver la planète, non mais sauver la planète au lieu de s'occuper à bien étudier juste ce qu'il faut pour trouver un emploi sans trop apprendre à réfléchir, au lieu de s'inquiéter pour l'économie et pour leur emploi futur, voilà que les jeunes, ils s'inquiètent, je vous en donne en mille, ils s'inquiètent pour la planète. Alors oui, parce que si vous ne savez pas, en Belgique, en fait, tous les jeudis, les collégiens vont manifester, ils brossent les cours pour aller manifester pour que le gouvernement fasse des choses pour le climat. Mais franchement, ces jeunes, ça n'a plus aucun respect pour rien. Déjà que ça ne partage pas toutes les merdes médiatiques que les vieux font l'effort de poster sur Facebook. Parce que les fameuses fake news, là, qui mettent en péril la démocratie et tout ça, c'est un problème de vieux. Si, si, si. On s'est rendu compte que c'est les plus de 65 ans qui postent essentiellement les fake news. Ils postent jusqu'à 7 fois plus de contenus considérés comme des fake news. Et entre nous, on pourrait retirer le mot fake parce que news tout court, ah ben, c'est déjà, ça dit déjà ce que ça veut dire depuis qu'on a inventé l'imprimerie, depuis qu'on a inventé, on a imprimé les premiers bouquins qui nous ont fait croire que, qu'il y avait eu un déluge et que Noé avait été le seul survivant pour construire un bateau. Alors que, honnêtement, hein, ça s'appelle du fake news. La seule chose d'ailleurs pour je peux dire, ça s'appelle une allégorie. Même les jeunes de 12 ans le savent. La raison pour laquelle Noé est sur le bateau, c'est pour donner à Julien Clerc de quoi chanter des chansons. Le reste, on s'en fout. Donc les news, c'est une merde infinie. Alors rappelez-vous bien que être informé est à notre époque ce que aller à la messe était il y a pas si longtemps. C'est une obligation morale stupide visant à contrôler votre esprit et votre temps libre. Et si vous prenez des enfants de 12 ans, ils ont beau écrire en langage SMS avec leurs potes et ils vous disent « Mais franchement, papy, tu crois à toutes ces conneries, là, avec toutes les publicités, là ?» Non, alors les jeunes, ils respectent plus rien. Ils brossent l'école pour tenter d'avoir une action politique alors qu'ils n'ont même pas le droit de vote. Mais fermez votre gueule, non ? Et je ne parle pas de ces jeunes américains du mouvement FIRE, comme Financial Independence Retire Early, donc indépendance financière et retraite... le plus tôt possible, qui cherchent à dépenser le moins possible, à économiser le plus possible pour prendre leur retraite à 40 ans. Non mais sérieusement, qui c'est qui va faire tourner l'économie, hein ? Qui c'est qui va acheter un SUV pour créer de l'emploi ? Si tout le monde se met à ne pas dépenser, à économiser pour ne pas travailler... Alors, bien sûr, il y a toujours eu des rebelles un peu écolos, mais on les avait bien cadrés, on avait envoyé des Pierre Rabhi, on avait fait le film Demain, on leur avait dit « Tu t'occupes de ton potager toute l'année, le reste tu l'achètes dans des supermarchés bio hors de prix, hein, parce que ton potager avec la méthode Rabhi, faut pas déconner, s'il arrive à produire de quoi nourrir deux anorexiques pendant une semaine, t'es déjà content. Mais, et tu peux après même aller retrouver tes potes à des concerts de djembé où tu mets un pantalon de pyjama et tu participes à des débats sur l'habitat groupé avec des posters de Mélanie Laurent. Bref, tout ça, c'est sous contrôle. Mais c'était sans compter les jeunes qui veulent ni acheter un SUV à crédit, ni passer leur vie à cultiver un potager. Du coup, on peut plus les mettre dans des cases. Et avec leur crypto machin blockchain, là, tous ces jeunes vont être capables de créer une économie alternative que l'État ne pourra pas taxer. Alors, on a tenté la carte de la division politique avec le fameux argument « Bitcoin consomme plus que l'Azerbaïdjan ». Mais de plus en plus d'articles commencent à analyser en profondeur le sujet. Et surprise, eh bien, c'est pas du tout le cas. Ce n'était, encore une fois, que du fake news. C'est des chiffres issus d'un seul type et repris partout. Et il y a même, en fait, une des fameuses études qui dit que le Bitcoin, c'est mal, ça pollue, qui a été faite par, qui a été écrite par des spécialistes en écosystème de l'université d'Hawaï, qui sont basés sur une seule source, le fameux type qui avait fait un blog post. Et quand on a interrogé les auteurs, mais pourquoi vous avez écrit ce papier, pourquoi vous avez fait ça contre Bitcoin, mais on s'est rendu compte que les auteurs, là, qui sont des scientifiques, hein, mais plus des biologistes, hein, on s'est rendu compte que les auteurs, mais ils croyaient que Bitcoin c'était un jeu vidéo. Alors là, on a franchement c'est le top niveau là parce que on sait plus quoi faire. Ah ben voilà, si. Comment est-ce qu'on va faire pour lutter contre la blockchain, le Bitcoin et les jeunes qui manifent ? Eh ben on va envoyer l'État. L'État il est très fort. En France, ils ont une idée géniale. On va exiger une carte d'identité pour accéder à Twitter. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une mesure qui va les calmer, hein. Ça va vous calmer, graines de rebelles indépendants, espèces de libres penseurs, avec vos jeux vidéo, là, et vos blockchains, vos désirs de sauver la planète. Non, mais, sérieusement, vous pouvez pas investir dans un fonds de pension comme tout le monde? Ou alors, à la limite, allez manifester contre l'augmentation du prix de l'essence. Oui, ça, c'est bien. Et votre BitChain, de toute façon, c'est une pyramide de pizza. C'est basé sur rien de tangible. C'est pas comme la vraie économie, hein, c'est comme les vrais crash boursiers comme en 2008, ça c'est basé sur la vraie économie. Franchement, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne respectent plus rien.
Oui, mais peut-être qu'entre nous, c'est pas eux qui ont commencé non plus, hein.
Voilà.
Magnifique, la pyramide de pizza, je la garde. Celle-là, elle est gravée et je la réutiliserai. Parfait, c'était effectivement très bien cadré dans l'actualité. Merci pour cet édito Plume. On va donc passer maintenant à d'abord courrier des auditeurs avant l'actualité. Avant de passer la nouvelle question de la semaine, je veux juste revenir sur la question de la semaine dernière qui traitait de d'Apradar, ce site qui répertorie un petit peu toutes les applications décentralisées, et notamment qui se posait la question de savoir, donc c'était une question d'Antoine, qui se posait la question de savoir est-ce que ça voulait dire quelque chose par rapport à la popularité des différentes blockchains pour le déploiement de ces applications décentralisées. Et il se trouve que depuis cette question, il y a un petit édito slash opinion qui a été publié sur CoinDesk, dont je vous mettrai le lien sur le, dont je vous mets le lien sur le blog, et qui parle justement du fait que l'adoption mainstream n'est pas forcément une bonne métrique pour mesurer le succès des DApp, qui revient en détail sur quelques arguments par rapport à ça. Et donc, je pensais qu'en complément de notre réponse du dernier épisode, ça pouvait être intéressant à regarder. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir le lien vers cet article CoinDesk sur le blog de l'émission. Et puis donc, cette semaine, on a eu un commentaire supplémentaire de Plumfan en commentaire de l'épisode 19.
Alors, Plumfan, on se connaît pas, mais t'as l'air vraiment de quelqu'un de bien.
Voilà, tout à fait. Donc, il nous dit Plumfan cette semaine. Oui, c'est pas sa première question en plus. Bonjour, petite question naïve entre guillemets, mais en vous entendant parler de décentralisation concernant la blockchain et les possibles soucis du DPoS, je me demandais à partir de combien de nœuds sur un réseau peut-on parler de décentralisation. Question très intéressante parce que effectivement c'est un sujet de première importance sur la blockchain. On a suffisamment insisté sur l'importance de la décentralisation. Alors rappelons au passage pourquoi la décentralisation c'est important et ce que ça apporte finalement dans le débat. Les trois principales avancées que permet la décentralisation, c'est d'une part la résilience. Donc autrement dit, ça devient impossible de tuer un système de collaboration décentralisé par une intervention ciblée. C'est le but, c'est que ce soit résistant aux fautes. C'est ce qu'on appelle, c'est le langage qu'on utilise souvent aussi en informatique. Le deuxième intérêt, c'est la résistance à la corruption, c'est-à-dire l'impossibilité de changer les règles du jeu de la collaboration de manière unilatérale et de manière surtout à bénéficier à une minorité des collaborateurs. Et le dernier intérêt, c'est la résistance à la censure, c'est-à-dire impossible de contrôler ou interdire l'accès à certains collaborateurs ou même de leur interdire de quitter le système. Et ça, on a des exemples maintenant de systèmes centralisés où c'est aussi un aspect intéressant de la censure. Donc, encore une fois,
Mais en fait, oui, parce que ça, c'est exactement un de mes sujets de recherche. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que justement, cette décentralisation, elle est très difficile à définir, elle est très difficile à garantir, elle est très difficile à mesurer. Hein. Il y a eu des tentatives, la tentative de faire le Nakamoto coefficient, qui mesurerait un certain degré de décentralisation. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, la décentralisation telle que, et on peut la lire un peu dans toute la littérature académique, est une propriété à un temps donné et qui n'est pas garantie dans le temps. Parce que vous pouvez avoir un système complètement décentralisé et puis demain, en fait, il y a des nœuds qui tombent ou certains nœuds, en fait, sont rachetés à travers des Sybil attaques. Donc, on a l'impression qu'il y a, par exemple, 1000 nœuds, mais en fait, les 1000 nœuds appartiennent à travers des sociétés écrans à la même personne. Et vous êtes face à un système centralisé et vous savez pas le voir. Et c'est pour ça que moi, j'ai développé, en fait, une théorie qui dit que l'important, c'est pas la décentralisation, c'est la capacité de forquer le système qui est importante. C'est-à-dire que c'est pas, on se fout de savoir si au temps X c'est centralisé ou pas, c'est juste que si à un moment le système nous plaît pas, on peut continuer à faire évoluer le système comme nous on voudrait et qui nous aime nous suivent et le système va se forquer en deux. Et là la blockchain est très intéressante parce que qu'une crypto-monnaie soit une vraie crypto-monnaie, soit centralisée ou décentralisée, qu'il y ait beaucoup de nœuds ou pas derrière la blockchain à un instant T, finalement ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de voir que s'il y a un désaccord fondamental, on peut toujours forquer et chacun prend l'historique avec soi. Il y a finalement il n'y a pas de coût à forquer outre le coût de développement. On n'est pas prisonnier. Et donc ça, c'est je pense une des propriétés majeures des systèmes de blockchain. C'est que on ne sait pas dire à un moment X qui sera le maître dans au moment T+1. À tout moment on peut forquer et c'est le public, c'est tout le monde qui décidera quelle sera la chaîne qui aura la plus d'importance, ou au contraire, le public décidera que les deux chaînes valent la peine d'être continuées en parallèle.
Voilà, alors juste, c'est tout à fait le cas, et c'est pour ça que je parlais de cette cet intérêt aussi de la censure, parce qu'effectivement qui dit forquer dit la possibilité pour chacun des utilisateurs de quitter un système pour en choisir un autre, et ça ben l'exemple le plus criant de l'incapacité, enfin de la limitation relative à cette censure dans certains systèmes centralisés, il suffit de regarder les mesures qui sont prises en ce moment par le gouvernement vénézuélien pour tout faire pour empêcher les Vénézuéliens justement de choisir un autre système économique, pour se rendre compte de l'importance de cette censure. Mais bon, on va quand même essayer de, même si effectivement, enfin, tu soulignes des points intéressants, on va essayer de descendre un petit peu plus dans les détails pour illustrer un petit peu pourquoi c'est si compliqué et pourquoi c'est pas juste une question de nombre de nœuds. Alors d'abord, quand on parle de décentralisation, c'est pas un état on-off, c'est pas une chaîne, une blockchain ou un système de collaboration d'une manière générale n'est pas soit centralisé, soit décentralisé. C'est tout un spectre, un continuum sur lequel ben, typiquement les différents systèmes et notamment les différentes blockchains peuvent se situer. Et dans ce contexte-là, le nombre de nœuds dans le réseau, c'est un facteur important, surtout quand on parle du nombre de nœuds qui peuvent modifier la blockchain, hein, ce qu'on appelle les mineurs, les validateurs en fonction des systèmes, mais c'est pas le seul et loin de là. Je vous ai mis le lien notamment d'un excellent article de Vitalik Buterin pour pas changer, donc le créateur d'Ethereum, qui a publié un article sur son Medium qui s'appelle The Meaning of Decentralization, qui date de 2007, mais qui est encore pas mal d'actualité, et dans lequel il insiste sur d'abord le fait que, en gros, il y a trois formes de décentralisation. Il y a trois axes de décentralisation, si on veut. Il y a ce qu'il appelle la décentralisation architecturale, c'est-à-dire effectivement le nombre de nœuds sur le réseau, le nombre de nœuds, en gros, qui doivent tomber avant que le réseau cesse de fonctionner. Il y a ce qu'il appelle la décentralisation politique, c'est-à-dire combien d'individus ou d'organisations contrôlent les nœuds de ce fameux réseau, ou le logiciel qui tourne sur ces nœuds hein, d'ailleurs. Et enfin, il y a la décentralisation logique, c'est-à-dire en gros, si vous coupez le réseau en deux, est-ce que les deux parties peuvent continuer à fonctionner sans être endommagées, appauvries, ou etc. Donc, la principale leçon de tout ça, c'est que même si vous avez un très grand nombre de nœuds, autrement dit, vous avez une certaine décentralisation architecturale, mais qui sont tous contrôlés par la même organisation ou la même entité, donc autrement dit, vous avez une centralisation politique, et ben c'est pas très décentralisé pour autant. Donc, vous voyez bien qu'il y a différents aspects qui sont interdépendants et qui jouent sur cet aspect de décentralisation. Pareil, même si vous avez un très grand nombre de nœuds, mais qu'ils exécutent tous le même logiciel développé par une seule organisation qu'il est impossible de rejoindre ou de quitter facilement, c'est pas très décentralisé non plus. Donc vous pouvez avoir une blockchain qui peut être décentralisée architecturellement et politiquement, mais pas logiquement, parce qu'elle se comporte comme un gros ordinateur qui maintient un état unique. Et c'est typiquement le cas pour les blockchains. Elles sont généralement décentralisé de manière architecturale et politique, mais pas logique, puisque justement le principal intérêt, c'est de maintenir cet état unique. Et si vous coupez une blockchain en deux, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un split. C'est ce qui s'est passé avec Ethereum versus Ethereum classique. C'est ce qui s'est passé avec Bitcoin versus Bitcoin Cash et Bitcoin Gold et compagnie. Si vous splittez le réseau, elle continue à évoluer chacun. Enfin, les différentes parties continuent à évoluer chacune de leur côté, mais pas sans dommage pour chacune des parties, justement. Un bon exemple, par contre, de système qui est complètement décentralisé à la fois sur le plan architectural, politique et logique, c'est BitTorrent par exemple, puisque là on s'en fout de maintenir un peu un état unique, même si vous isolez différentes parties du réseau BitTorrent, les fichiers pourront continuer à être échangés librement et sans perte de valeur en gros sur chacune des parties du réseau. Mais en fait, un des exploits des blockchains, et là où elles ont vraiment changé la donne, c'était justement de permettre la décentralisation architecturale et politique, tout en ayant une centralisation logique, tout en maintenant cet état sur lequel tout le monde tombe d'accord, cet aspect, c'est ce qu'on appelle le consensus. Donc, au final, pour qu'une, là encore, c'est des conclusions en gros de l'article de Vitalik que je vous invite à lire, pour qu'une blockchain soit vraiment décentralisée, je vais y arriver, hein, décentralisée politiquement et architecturellement. Il faut d'une part qu'il y ait plusieurs implémentations concurrentes du protocole. Si vous avez un seul logiciel, ça commence déjà à sentir le sapin. Il vaut mieux que le processus de décision sur toutes les évolutions du protocole soit complètement ouvert et pas le fait d'une équipe stable et fermée. Donc c'est donc typiquement en le cas gros,
ça veut dire, ça veut dire open source du début à la fin. Et le code et les processus voilà. décisionnels doivent être open source, point barre. Si c'est pas open source, vous avez même pas le strict minimum pour faire un projet décentralisé.
Exactement, et c'est pour ça que autant de projets de blockchain sont effectivement open source et que s'ils ne le sont pas, il faut se poser sérieusement des questions. Il faut aussi que les développeurs et les chercheurs, parce que généralement il y a un petit peu les deux communautés, soient financés eux-mêmes par des organisations différentes. Là encore, si vous avez tous les développeurs et les chercheurs qui travaillent sous le même toit, par financés par une entité, une organisation qui a des intérêts convergents, ben c'est pas décentralisé puisque vous avez une centralisation politique. Et il faut aussi que il faut au minimum que l'algorithme de minage cherche à minimiser le risque de centralisation et notamment de centralisation matérielle. Tant que faire se peut qu'il résiste ce qu'on appelle les ASICs, c'est-à-dire ces matériels dédiés au minage qui ont tendance à être fabriqués par un ou quelques fabricants. Mais aussi, ça veut dire dans tout blockchain basé sur la preuve de travail, il y a ce risque de centralisation par le matériel, par la disponibilité du matériel et aussi par le fait que qui dit matériel dit c'est plus facile à détecter, donc c'est un risque inhérent à la preuve de travail. Donc ça c'est encore une fois je vous invite à lire cet article, il est assez bien foutu et encore une fois malgré l'intelligence du gars il arrive à ramener les choses à un niveau compréhensible. Et alors tu parlais tout à l'heure du Nakamoto Factor, je vous invite aussi à lire cet article là aussi qui date de 2017 qui s'appelle Quantifying Decentralization, qui a été écrit par rendons à César ce qui est à César, Balaji Srinivan pardon si j'ai massacré son nom, qui en gros propose une approche pour essayer de mettre un chiffre sur la décentralisation, parce que effectivement son argument c'est de dire puisque la décentralisation est aussi importante, si on veut pouvoir la mesurer pour comparer les systèmes entre eux, éventuellement vérifier qu'une évolution dans le système augmente la décentralisation plutôt que de la réduire, voire même concevoir des algorithmes qui permettent d'optimiser cette décentralisation, tout ça nécessite de pouvoir mettre un chiffre sur cette décentralisation et de trouver des métriques qui sont significatives. Donc l'approche qui est proposée dans cet article, c'est d'abord d'inventorier les différents sous-systèmes qui composent une blockchain, un système de collaboration en général, mais là il se concentre plus sur une blockchain. Ensuite de déterminer combien d'entités il faudrait compromettre dans chaque sous-système pour pouvoir le contrôler. Et enfin de prendre le plus petit de ces chiffres et de l'établir comme score de décentralisation. Bien sûr, il part du principe que chacun de ces sous-systèmes est suffisant à compromettre en soi pour tout simplement contrôler ou mettre à mal l'intégrité de l'ensemble du système. Exemple de ces sous-systèmes pour une blockchain comme Bitcoin, ça va être le minage qu'on va mesurer en reward, ça va être les différents clients, donc les différents logiciels, ça va être les développeurs qu'on va pouvoir mesurer par exemple par leur contribution au code open source ou que ce soit en commit, en ligne de code ou peu importe. Ça va être aussi les plateformes d'échange, on pourrait se dire qu'elles font partie du système et que en contrôlant un certain volume de crypto-monnaie, elles peuvent participer à sa centralisation. Ça peut être la répartition des nœuds par pays, ça peut être aussi la répartition de la crypto-monnaie par détenteur, par adresse. Bref, tout ça ce sont des exemples et il prend ces six exemples là d'ailleurs pour donner des chiffres. En gros, la règle de pouce c'est qu'il doit être possible de compromettre l'ensemble du système si on peut compromettre seulement l'un de ces sous-systèmes. Donc là aussi, encore une fois, chacun peut être juge de, par exemple, de dire est-ce que les échanges font vraiment partie de ces sous-systèmes ? Parce que si on enlève les plateformes d'échange comme les Coinbase et compagnie, est-ce que ça empêche les blockchains de fonctionner ? Techniquement, non, en tout cas. Pratiquement, ça reste à voir. Donc, tout ça montre que c'est bien une problématique compliquée, multifactorielle, pas évidente à mesurer, et de toute façon qu'il faut pouvoir confronter à la pratique. Et après, la question était posée aussi par par Plumfan dans le contexte de tous les débats qu'on a eu à propos de EOS et de son DPOS. Je vous rappelle encore une fois que dans le cas d'EOS, son DPOS est basé sur 21 masternodes, donc 21 validateurs, qui sont les seuls à pouvoir contrôler ce qu'on met dans les nœuds, qui sont du coup identifiés parce qu'ils doivent pouvoir inspirer confiance à la communauté et qui sont élus par un processus qu'on peut tout à fait corrompre via des paiements. Et il y a, voilà, il y a déjà eu des précédents depuis la création de DOS qui laissent fortement à penser que ça s'est déjà produit. Donc voilà, je vous laisse juste, encore une fois, c'est un sujet de recherche constant et permanent. Comme le disait Plume, il y a aussi l'importance de pouvoir forquer et donc de pouvoir quitter un système qu'on juge trop centralisé. Ça reste une liberté fondamentale. Et donc, tout ça est intéressant. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas si simple que de compter le nombre de nœuds.
Et je tiens à préciser que ma théorie dit que le fait de pouvoir forquer est équivalent à une décentralisation garantie dans le temps en termes de propriété. Mais voilà, mon papier n'a pas encore été publié, n'a pas encore été accepté. Donc ça reste une théorie, encore une théorie non confirmée pour le moment.
Bah, de fait, c'est vrai que on pouvait considérer aussi qu'à partir du moment où, si tous les acteurs savent que les utilisateurs pourront facilement quitter le système et le forquer s'ils estiment qu'il est centralisé, du coup, ça crée un contre-incitant, on va dire, les inciter à éviter que ça se centralise, quoi. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens s'en aillent. En tout cas, voilà, je suis impatient de lire ton papier, tiens, pour le coup. Passons donc maintenant, j'espère que d'ailleurs ça a répondu à la question de Plumfan. Encore une fois, je répète, si vous avez vous-même des questions, des remarques, des suggestions, des demandes de clarification, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur les épisodes, enfin sur les blog posts des épisodes ou sur notre compte Facebook ou Twitter, comme à l'habitude. Et je passe maintenant aux actualités. Alors on va commencer par parler, pour ne pas, une fois n'est pas coutume, par les actualités de l'écosystème Ethereum. Alors très rapidement, on va revenir sur la conclusion, enfin le passage de la semaine, enfin de l'épisode précédent. On avait parlé du décalage de Constantinople et à l'époque, on n'avait pas encore de décision prise concernant l'avenir de ce hard fork. Donc le hard fork a finalement été repoussé au bloc 7 280 000, qui, selon les premières estimations, devrait se produire vers la fin février, donc entre le 26 et le 28. Ce hard fork ne comprendra donc pas le IP dans lequel on a, enfin donc l'amélioration dans laquelle on a noté un bug, c'est-à-dire le IP 1283, qui devait à la base permettre d'améliorer la consommation de gaz pour certaines des opérations liées au smart contract. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails ici, mais voilà. Donc cette EIP va être enlevée du hard fork et du coup l'intervalle jusque fin février sera utilisé pour retourner tous les tests sans cette fameuse amélioration, pour s'assurer qu'il n'y a pas de bugs qui sont introduits par interdépendance, c'est-à-dire que en gros jusqu'à maintenant tout le hard fork avait été testé comme un tout, et donc comme on vient d'enlever une des parties, il faut s'assurer que ça ne rajoute pas plus de problèmes que ça n'en enlève. Donc voilà, le problème qui se pose, c'est que d'ici à ce fameux bloc 7 280 000, la bombe de difficulté qui est toujours là dans la version actuelle devrait entrer en action, et elle a commencé même déjà à entrer en action, ce qui va forcément compliquer les estimations sur la date à laquelle le bloc d'activation sera miné, puisque les blocs vont tendance à être minés de plus en plus lentement et de manière exponentielle. Donc espérons que ça arrivera assez vite, mais voilà, donc ça c'est à surveiller, et ne vous inquiétez pas si vous voyez que les estimations changent un petit peu du jour au lendemain. Dans le même temps, et en même temps, même si on est impatient que Constantinople soit derrière nous, évidemment le monde ne s'arrête pas de tourner et le travail continue sur les prochains hard forks pour Ethereum, et notamment le travail sur Ethereum 2.0, qu'on appelle aussi Serenity dans le jargon des releases d'Ethereum. Il y a déjà comme on l'a déjà évoqué, certains groupes qui travaillent sur cette nouvelle version, y compris certains groupes qui ont récemment bénéficié de subsides de la Fondation Ethereum et même de Vitalik lui-même. Hein, vous vous souvenez de cet épisode où il avait un petit peu arrosé tout le monde de son Ether via quelques tweets fameux. Parmi ces organisations, il y a notamment Prismatic Labs qui travaille sur le client Ethereum 2.0 qui s'appelle Prism et qui vient de lancer le 31 janvier le premier réseau de test pour Ethereum 2.0 qui s'appelle Girly. Alors vous allez me dire que c'est quoi le rapport avec, avec les filles. Non, là c'est surtout Girly, ça s'écrit G-O-R-L-I. Donc, autrement dit, on dirait un petit peu un nom de meuble Ikea. Mais voilà, c'est le nom du premier réseau de test Ethereum 2.0. Alors, dans un premier temps, c'est un réseau de type Proof of Authority, c'est-à-dire que c'est pas du tout ni du Proof of Work, ni du Proof of Stake. L'objectif de ce premier réseau de test, c'est de permettre à tous les clients qui travaillent sur Ethereum 2.0 de se synchroniser en testant leurs premières implémentations respectives. Alors, lors du lancement du réseau, en gros, du minage du bloc de genèse, Prismatic Labs en a profité pour sécuriser un montant important de la monnaie hein, du testnet, qui est une monnaie de singe, hein, soyons bien d'accord. Mais bon, toujours est-il que c'est plus facile à écrire dans le bloc de genèse, tiens, il y a 10 millions et ceux-là, ils vont chez moi, que d'attendre que chaque bloc, on en crée un petit peu et on en récupère. Donc ça leur sera utile pour faire les tests. Et aussi dans l'optique où, rapidement après ce nouveau réseau de test, ils envisagent d'en lancer un deuxième qui lui pour le coup implémentera sera un réseau proof of stake, donc preuve d'enjeu, sur lequel on devra donc mettre de la crypto-monnaie en gage pour pouvoir valider des blocs, et la crypto-monnaie qu'on mettra en gage c'est la crypto-monnaie de Girly. Donc en gros ce sera une blockchain un petit peu hybride, un petit peu complexe, mais voilà, c'est lié aussi au mode de test qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur cette technologie un petit peu incomplète. Tellement incomplète d'ailleurs qu'il n'y aura pas de sharding pour l'instant. Ça arrivera plus tard dans les phases ultérieures. C'est en fait ici, Girly, c'est vraiment une première implémentation très partielle de ce qu'on a identifié comme étant la phase 0 d'Ethereum 2.0 pour vraiment commencer à concrétiser les spécifications réalisées par les chercheurs. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la plupart des développeurs disent maintenant qu'ils sont à l'heure actuelle en train de courir après les chercheurs. Donc toutes les spécifications en gros sont quasiment finalisées. En tout cas, le travail a bien avancé et maintenant c'est les développeurs qui doivent courir après pour implémenter ces spécifications. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas parce que pendant un temps les développeurs attendaient un petit peu sur les chercheurs pour apporter les améliorations aux spécifications, et maintenant c'est l'inverse. Mais donc voilà, le travail sur Ethereum 2.0 est bien engagé. Maintenant évidemment ça va prendre un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place et que se concrétise, et surtout qu'on commence à envisager des scénarios de migration depuis les réseaux actuels vers ces nouvelles technologies. Et je pense que j'ai fait le tour de Ethereum pour cet épisode. Deuxième news dont je voulais vous parler cette semaine, c'était, je voulais revenir sur Tron. Alors, on n'a pas encore évoqué, il me semble, cette blockchain, en tout cas pas en détail dans les épisodes précédents. Et la raison pour laquelle on en a parlé cette semaine, c'est qu'ils ont tenu, il y a deux semaines, une conférence qui s'appelle Nitron, ou Nitron, enfin voilà, appelez-la comme vous voulez, à San Francisco. Et ça a été l'occasion pour eux de donner quelques news, et notamment donner quelques news par rapport à BitTorrent. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre une blockchain et BitTorrent ? Si ce n'est la décentralisation, peut-être. Eh bien, le fait est que BitTorrent, donc pour rappel, hein, c'est un protocole décentralisé de partage de fichiers qui, évidemment, est très utilisé pour télécharger des distributions de Linux. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il compte environ 100 millions d'utilisateurs, quand même. Donc, l'équipe derrière le développement de BitTorrent avait créé un petit peu la surprise l'été dernier quand ils avaient annoncé leur acquisition par la Fondation Tron qui développe, justement, la blockchain éponyme pour la modique somme de 120 millions de dollars. Donc là, on n'avait pas très bien compris à l'époque c'était quoi le rapport, puisqu'encore une fois, dans BitTorrent, malgré sa décentralisation, il n'y a pas du tout de blockchain. Et voilà, ils avaient déjà pas mal d'utilisateurs et on ne voyait pas trop bien l'intérêt que ça pouvait représenter. Il se trouve que, de son côté, Tron, qui a été lancé en septembre 2017, après avoir converti son token ERC20 en crypto-monnaie, donc ils ont vraiment lancé leur propre blockchain, et le token TRX est devenu une crypto-monnaie TRX, donc une crypto-monnaie native sur la blockchain Tron, quand ils ont acquis le réseau BitTorrent, enfin l'équipe derrière BitTorrent, ils étaient déjà la 11e crypto-monnaie en termes de capitalisation. C'est quand même pas négligeable non plus. Aujourd'hui, au passage, ils sont 8e, juste derrière le Litecoin, toujours en termes de capitalisation. Hein. On cherchait depuis qu'il y avait eu cette acquisition à voir un petit peu quelle était la logique derrière et notamment quel était l'intérêt pour Tron. Au-delà, évidemment, de l'intérêt marketing que ça pouvait représenter d'associer les deux marques. Et donc, depuis l'acquisition de BitTorrent, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui commencent à comprendre qu'il y a un intérêt au niveau justement du nombre d'utilisateurs, puisque comme BitTorrent développe aussi le client BitTorrent le plus populaire sur le réseau, eh ben ils ont la possibilité de toucher, d'accéder directement à ces utilisateurs. Et donc, c'est un petit peu le problème de l'œuf et de la poule avec les crypto-monnaies, c'est que pour être populaire, il faut qu'il y ait beaucoup de monde dessus, et pour qu'il y ait beaucoup de monde dessus, il faut qu'elle soit populaire. Là, du coup, c'était un peu une manière pour Tron de résoudre ce problème-là en faisant l'acquisition d'un client qui lui donnait accès à un réseau sur lequel il y avait déjà beaucoup de monde. Et une des synergies finalement qui est envisagée et qui a été évoquée durant cette conférence à San Francisco, c'est en gros de créer un mécanisme d'incentive pour inciter ce qu'on appelle dans le jargon de BitTorrent les seeders, donc ceux qui mettent à disposition des morceaux de fichiers, donc mettre en place un système d'incentive, d'incitation pour les motiver à partager aussi des fichiers qui sont moins populaires, moins demandés. C'est un peu le problème aujourd'hui sur BitTorrent, c'est qu'au bout d'un moment, les fichiers qui ne sont pas demandés, ils disparaissent du réseau et on n'arrive plus à les télécharger. Et effectivement, si on pouvait compenser financièrement les gens pour mettre à disposition ces fichiers, ça pourrait résoudre une partie du problème. Et c'est un petit peu ce qui est évoqué ici. L'idée, ce serait de créer un token spécifique pour ça, qui s'appelle le BTT, le BitTorrent Token, et que certains utilisateurs pourraient payer, donc ce serait des micro-paiements évidemment, hein, des tout petits montants, mais pour inciter certains, ceux qui ont le fichier, à le mettre à disposition du réseau. Alors évidemment, ces paiements seraient optionnels, mais ils devraient pouvoir être introduits dans le client BitTorrent le plus populaire, encore une fois, qui est développé par la société BitTorrent. Et le pari, c'est que même pour les fichiers pour lesquels il y aurait aucun paiement en BTT qui serait nécessaire, le simple fait qu'il y ait plus de machines connectées au réseau pour seeder devrait augmenter la bande passante globale et donc la vitesse de téléchargement de l'ensemble des fichiers. Donc c'est un pari plutôt osé, et en même temps ça a jamais été fait à cette échelle. Alors ce qui est prévu, c'est que 6% du stock de token BTT ont été normalement mis en vente à partir du 28 janvier, donc il y a quelques jours, avec une limite de capitalisation à 7,2 millions de dollars. Donc on va voir où ils vont s'en sortir avec cette espèce de petite ICO. Et évidemment, pour ceux qui ont déjà du TRX, donc ceux qui avaient déjà de la crypto-monnaie native du réseau Tron, eux, ils vont bénéficier d'un airdrop, c'est-à-dire, en gros, on va leur donner des BTT gratuits, et ça sera fait normalement d'ici mi-février. Donc voilà, ce genre de système de partage de fichiers avec rémunération, ça avait déjà été tenté, et même dans certains cas, ça avait déjà échoué, disons-le clairement. C'était le cas notamment d'un réseau qui s'appelait Mojo Nation. Il y a Filecoin aussi qui est en train d'essayer ce truc-là. Ça fait aussi partie de ce qui doit être essayé par Swarm quand il sera un jour peut-être réalisé sur Ethereum. Mais en tout cas, ça n'avait jamais été tenté sur un réseau, encore une fois, sur lequel il y a déjà 100 millions d'utilisateurs prêts qui ont déjà un client sur lequel on va pouvoir leur communiquer les possibilités de ce nouveau token. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va être fait de ce côté là. Bon, à côté de ça, on se refait pas. Les mauvaises habitudes ont du mal à mourir, comme disent les Anglais. Le fondateur de Tron, j'ai nommé Justinson, continue des campagnes marketing effrénées pour essayer de faire la pub de Tron, parfois de manière assez douteuse, hein, par exemple en associant la marque à des personnalités sans forcément beaucoup de pertinence. Il a donné une conférence avec Kobe Bryant, le champion de basket, qui avait pas l'air d'avoir grand chose de spécialement intéressant à dire sur la blockchain, mais ça fait une tête d'affiche qui attire du monde, donc voilà. Mais toujours est-il que de plus en plus de personnes regardent du côté de Tron, parce que c'est vrai que cette stratégie d'utiliser, enfin de surfer sur la vague de la popularité de BitTorrent va être intéressant à observer. À noter au passage que le BTT, c'est un token TRC10. Alors TRC10, ça me rappelle un peu les ERC d'Ethereum. De fait, Tron a aussi ce système de proposition d'amélioration. TRC10, c'est un standard qui permet de détailler en gros, de définir comment implémenter un token natif sur la blockchain Tron. Donc en plus de la crypto-monnaie, on peut aussi définir des tokens natifs. Ils ont aussi un standard TRC20 qui, lui, pour le coup, est vraiment équivalent à l'ERC20, c'est-à-dire qui explique comment implémenter un token similaire, mais ce coup-ci avec un smart contract. Donc voilà, c'est vraiment cadré technologiquement tout ça. Donc voilà. Le fait est que avec l'introduction du BTT dans BitTorrent, BitTorrent pourrait devenir la plus grosse dApp de tout l'écosystème des blockchains si ça fonctionne. Donc évidemment, affaire à suivre dans les semaines à venir. Sujet suivant, je voulais vous parler du Lightning Network. Donc on va switcher un petit peu dans le monde du Bitcoin, puisqu'on a eu quelques nouvelles et quelques chiffres intéressants qui sont sortis par rapport à l'évolution du Lightning Network. Donc je rappelle, hein, le Lightning Network, c'est une implémentation de ce qu'on appelle les payment channels, les canaux de paiement, sur le réseau Bitcoin. C'est-à-dire une technologie qui permet en gros d'accélérer les paiements sur Bitcoin en sortant certaines transactions de la blockchain principale et en les mettant sur des espèces de réseaux parallèles, mais qui restent ancrés dans la blockchain Bitcoin pour conserver leur sécurité. Au passage, hein, vous vous souvenez que quand vous faites une transaction sur Bitcoin, il faut attendre au minimum une dizaine de minutes pour qu'elle soit minée dans un bloc et même une heure pour qu'elle soit vraiment finalisée et qu'on soit sûr qu'on ne reviendra pas en arrière, en gros. Ici, sur le Lightning Network, on est capable de faire des transactions en quelques secondes, ce qui est particulièrement intéressant et ce qui multiplie les cas d'usage potentiels. Eh bien, le nombre de ces canaux de paiement s'élève aujourd'hui à plus de 22 000, donc il y a plus de 22 000 sous-réseaux comme ça qui ont été créés, ce qui représente une augmentation de 36% juste sur le dernier mois. À ce jour, ces 22 000 canaux sont opérés par plus de 5 500 nœuds, donc on parlait du nombre de nœuds et de son importance pour la décentralisation, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, et ça représente une augmentation aussi de 16% sur le dernier mois. Et alors, là aussi, pour mesurer un peu la décentralisation du bazar, la plupart des nœuds sont répartis en Amérique du Nord et en Europe de manière relativement homogène. Alors ça fait du sens aussi qu'ils suivent un petit peu la répartition des nœuds Bitcoin en général et même de là où il y a les connexions Internet, on va dire les plus fréquemment utilisées. Mais en tout cas, contrairement au minage sur Bitcoin, ça a pas l'air de se concentrer trop en Asie pour l'instant. Autre chiffre intéressant, depuis juin dernier, on est passé de 25 à 578 bitcoins qui sont stockés dans des canaux de paiement, donc qui sont utilisables sur des canaux de paiement via le Lightning Network. Donc c'est quand même une croissance assez intéressante. Je rappelle au passage que le Lightning Network a été lancé en bêta en mars 2018 la technologie qu'on dit de niveau 2 est activement maintenue maintenant par 6 équipes différentes au moins. Il y en a d'autres qui travaillent sur des plus petites implémentations un petit peu plus discrètes. Mais en tout cas, il y a 6 grosses équipes différentes. Donc là, encore une fois, ça participe à la décentralisation qui travaillent sur ce projet à travers la planète, encore qui sont répartis dans le monde entier. Et puis, il y a eu un sommet qui a été organisé à Adélaïde en Australie en novembre de l'année dernière qui a déjà permis de se mettre d'accord entre les différentes équipes sur quelques améliorations qui devraient être apportées au protocole de manière incrémentale. Faut savoir que la spécification principale, elle est maintenue dans un projet open source qui s'appelle Bolt, Basis of Lightning Technology, qui est pour l'instant en version 1.0, mais qui devrait bientôt évoluer vers une version 1.1, avec quelques améliorations importantes, que je vais vous citer là rapidement. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les plus attendus. Il y a ce qu'on appelle le splicing, qui sera la possibilité de modifier la capacité d'un canal de paiement après sa création, plutôt que de devoir en créer un nouveau à chaque fois qu'on veut changer la capacité de celui-ci. Il y a l'AMP, qui est la possibilité de splitter les paiements en plusieurs parties. En gros, c'est pouvoir payer des factures de manière distribuée, pouvoir avoir plusieurs payeurs pour une seule et même facture. Il y a ce qu'on appelle les Wumbo Channels. Alors Wumbo, pour ceux qui connaissent, hein, c'est inspiré de Bob l'Éponge. Je vous invite à lire le petit article qu'on vous a mis en lien pour voir le lien, justement, pour voir la relation entre les deux. Et là, l'objectif, c'est de faire sauter la limite qui a été mise sur, justement, la limite maximum qui a été mise sur la capacité des canaux Lightning. Il faut savoir que les développeurs Bitcoin, enfin, de l'écosystème Bitcoin, ont cette réputation d'être très conservateurs et très prudents. Donc, ils avaient prévu le fait que les gens pourraient s'emballer un petit peu pour le Lightning Network. Et donc, ils avaient mis une limite dure à 0,16 Bitcoin, soit environ $600 au cours d'aujourd'hui, qu'on pouvait mettre en gage dans un canal de paiement. Et ben les Wumbo Channel, c'est en gros de se dire bon bah ça a l'air de fonctionner, donc on peut faire sauter la limite maintenant, mais de manière optionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez, par défaut, la limite sera là et vous pourrez rajouter éventuellement un paramètre pour dire non, il n'y a pas de limite. Autre amélioration, ce sera les adresses statiques, qui devraient faciliter la récupération de ces fonds depuis un canal de paiement dans certains scénarios catastrophes. Et enfin, la dernière grosse amélioration, c'est ce qu'on appelle le 2PECDSA, qui devrait permettre de masquer les transactions d'ouverture et de fermeture de canaux de paiement Lightning sur la chaîne principale, et donc de mieux protéger l'anonymat, hein, la vie privée des utilisateurs de Lightning, ce qui sera aussi un élément important. Bref, les choses avancent plutôt bien sur le Lightning Network, donc c'est assez prometteur pour la scalabilité de Bitcoin. Et évidemment, je vous ai mis en lien sur le blog les articles dont j'ai tiré toutes ces infos, mais aussi un lien qui répertorie certaines applications qui utilisent déjà ce mode de paiement, donc des applications tout à fait sérieuses et très utiles. Donc je vous invite à aller consulter ce petit truc. Et alors, dernière actualité de la semaine qui est importante parce que c'est suffisamment rare pour être signalé. Il y a des conférences qui se pointent à l'horizon, mais qui ne sont pas des conférences à outils plous les bains de pied, comme on dit chez nous, mais des conférences en France et en Belgique. Alors, je vais commencer par la Belgique parce que c'est particulièrement pressant. J'espère que certains d'entre vous écoutent ce podcast dès sa publication, évidemment. Vous l'attendez avec impatience et dès que vous recevez la notification, paf, vous sautez dessus comme des crevards. J'espère que c'est le cas, puisque en l'occurrence ce week-end, donc le week-end de la publication de cet épisode, les 2 et 3 février, se tient à Bruxelles le FOSDEM, donc le salon, la grand messe de l'open source en Belgique. Donc c'est le moment, c'est l'instant. Il faut pas hésiter, faut surtout pas manquer cet opus du FOSDEM. Pour rappel, hein, pour ceux qui connaissent pas, ça se passe à l'Université libre de Bruxelles, donc à l'ULB, donc à Bruxelles, et c'est gratuit. C'est complètement gratuit, donc vous pouvez juste vous pointer sur place et assister aux sessions. Ça rassemble des milliers de développeurs open source du monde entier. Le côté gratuit, il est peut-être pour quelque chose. Et cette année, ils ont une dev room, donc une salle qui est dédiée à tout ce qui touche à la blockchain et aux crypto-monnaies. C'est la room H1302, comme ça vous évite de chercher. Mais évidemment, on vous a mis le lien vers le programme détaillé dans le blog post. Ça va parler identité numérique, outils de développement, gouvernance on-chain, réseaux sociaux, Tezos, OpenGraph, Wallet Hardware, Gitcoin, Bisc, Substrate, et même des trucs qui n'ont rien à faire là, comme Hyperledger Fabric. Bon, d'accord, c'est open source, mais c'est pas vraiment de la blockchain, alors ça n'a rien à faire là. Bref, heureusement, c'est pour tout.
Le principe du FOSDEM, c'est devenu de plus en plus grand. Il faut imaginer, c'est comme un grand festival sur un campus universitaire où tous les conférenciers sont ultra techniques. C'est-à-dire qu'ils ont des t-shirts sales trop larges, qu'ils marmonnent dans leur micro en montrant des slides imbitables et qu'ils parlent à des gens qui connaissent déjà le sujet, généralement. Mais ça fait partie du plaisir.
Comment tu le vends bien?
Non, mais non, mais j'ai commencé à aller au FOSDEM, je crois, en 2004 ou en 2005. Donc, je crois que je connais quand même quelques années. J'ai quelques années de FOSDEM derrière moi. Et ça fait partie du plaisir. C'est quand même le seul endroit au monde où on trouve des rockstars de la programmation open source. Et maintenant, ça s'ouvre un peu plus à d'autres choses, mais on voyait vraiment les stars du développement open source assis par terre dans le couloir en train de programmer des logiciels open source qu'on allait utiliser, qui allaient être lisés le lendemain. Sans compter qu'à l'époque, les portables étaient moins courants qu'aujourd'hui. Et donc, moi, j'en ai vu littéralement qui se baladaient avec des tubes cathodiques, des écrans, des vrais tubes cathodiques et qui s'asseyaient par terre dans le couloir pour brancher à une prise, pour se mettre à coder avec leur mini-tour, leur tube cathodique et leur clavier sur les genoux. Donc, je vous jure que c'est vrai. Bon, maintenant, avec les portables et le Wi-Fi, maintenant, c'est pas comme avant. Avant, on n'avait pas Internet. Ça foirait tout le temps, ils essayaient de foutre du wifi, la 4G n'existait pas, mais ça vaut quand même le coup d'aller voir juste pour se dire waouh. Par contre, si vous voulez pas vous faire remarquer, prenez vraiment un jean sale, un t-shirt d'un projet informatique quelconque libre, hein. Parce que, oui, quoique maintenant, les t-shirts Microsoft, ça passerait bien, justement, hein, mais pas un t-shirt Apple, par exemple. Et si vous n'avez pas de lunettes, ben vous en remettez histoire d'eux, et vous faites comme si vous compreniez tout ce qui se dit. Et en fait, c'est ce que tout le monde fait au FOSDEM. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment une ambiance géniale, et je pense que je dois remercier le FOSDEM pour m'avoir permis d'être là où je suis, parce qu'aujourd'hui j'enseigne l'open source à l'université et c'est grâce à toutes ces années de formation en FOSDEM.
Donc voilà, j'espère qu'il vous l'aura bien vendu, en tout cas pour les plus hardcore d'entre vous ou même ceux qui sont curieux de voir à quoi ça ressemble, des développeurs open source passionnés et fascinés, si ce n'est fascinants, n'hésitez pas.
Et attention, tout le monde veut goûter les frites à midi, donc il y a une file de monstres devant la cabane à frites, donc prévoyez en conséquence, n'hésitez pas, il y a des soirées généralement, ça commence ce soir, il y a des soirées le vendredi soir, le samedi soir, un peu partout dans Bruxelles. D'ailleurs, si vous vous baladez à Bruxelles ce week-end, ce soir et demain soir, vous allez vous dire mais en fait il y a plein de nerds par ici, c'est probablement le FOSDEM qui déborde. Faut savoir que c'est quand même, maintenant je crois qu'on est à 6 ou 7 000 personnes qui viennent du monde entier et qui sont des geeks open source qui sont là du monde entier et qui se baladent en liberté sans trop de surveillance à Bruxelles pour le moment.
Voilà, alors je crois que cette année ils ont même prévu 8000 de ce que j'ai vu sur le site. Donc ça, 8000, ouais. pour la partie blockchain en tout cas, donc là, effectivement la conférence, il y a des soirées déjà vendredi soir, mais ça, je pense que ça sera trop tard pour vous pour vous déplacer à cause de notre message, mais en tout cas c'est toute la journée de samedi et de dimanche. Et pour ce qui concerne la blockchain, la salle dédiée, c'est dimanche 3 février, ça démarre à 9h40, hein, je rappelle le numéro de la salle, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher, c'est la H1302, la 2 pages, voilà, et ça se passe, je rappelle, à l'ULB, et c'est gratuit. Autre événement à ne pas manquer pour tous ceux qui se plaignent qu'il n'y en a que pour les ricains, pour ceux qui parlent anglais ou qui peuvent prendre facilement l'avion, ça se passe à Paris, et vous avez un petit peu plus de temps pour le coup, puisque ce sera du 5 au 7 mars prochain. Ça s'appelle ETHCC, donc la Ethereum Community Conference. Donc évidemment, ça se concentre sur le sujet d'Ethereum. C'est organisé par l'ACET, l'association Ethereum, des petits parisiens super motivés. Et alors, il y a du beau monde, hein. Là, on parle déjà de Christophe Jentsch, de Vlad Zamfir, de Hudson Jameson, de Lane Rettig, de Fabien Vogelsteller, l'inventeur lui-même de l'ERC20, rendez-vous compte. Et j'en passe, et des plus brillants. Évidemment, si ces noms-là ne vous disent rien ou pas grand-chose, c'est l'occasion ou jamais de faire leur connaissance et de vous rendre donc à cette conférence. Pour info, j'y étais l'année dernière et Vitalik lui-même s'est pointé un petit peu à la dernière minute, à la surprise générale, l'air de rien, comme ça, il est rentré dans un amphi et puis coucou, c'est moi. Il y avait eu quelques rumeurs avant, on n'était pas sûr, et en fait si, il est venu. Donc voilà, il y a du beau monde, il y a vraiment toute la communauté qui se rejoint là. Ça se passe en plus dans le cadre magnifique du Centre National des Arts et Métiers en plein Paris, donc dans le 3e arrondissement. Vous pouvez déjà acheter vos tickets maintenant, vous pouvez les payer en euros ou en crypto, évidemment, pour rester cohérent. Et c'est seulement 240 €. Alors, c'est pas gratuit, mais franchement, c'est pas cher étant donné la qualité des speakers d'une part. Et alors, s'ils font comme l'année dernière, la qualité de la bouffe. Parce que l'année dernière, on avait du lunch, je vous raconte même pas. Alors, en plus, en marge de l'événement, pour illustrer à quel point c'est gros, il y aura aussi ce qu'on appelle maintenant le conseil des magiciens, c'est-à-dire un petit peu le conseil des sages, des plus gros développeurs, pour discuter des futures évolutions et notamment d'Ethereum 2.0 et tout ça, qui aura lieu le 4 mars, donc la veille. Et il y aura un hackathon aussi qui aura lieu du 8 au 10 mars. Donc toutes les infos sont sur ethcc.io. Évidemment, je vous mets le lien sur le blog. Et voilà, vous pouvez pas rater cette occasion. Si vous êtes français, belge ou francophone ou européen ou quoi, il faut y aller parce que c'est vraiment un chouette événement, plutôt bien organisé et pas cher du tout vu la qualité du contenu. Donc voilà pour les petites conférences qui se pointent à l'horizon et qu'il ne faut pas manquer. Et je voulais clôturer un petit peu cet épisode parce que, justement, en parlant d'actualité, si on fait un petit bilan, le premier épisode du Proof of Cast a été publié le 30 mars 2018, donc il y a bientôt un an. Je suis en train de remettre certains éléments en question et notamment la place des actualités dans ces épisodes. Je vous explique pourquoi. Il se trouve que ces dernières semaines, quand je prépare les épisodes, quand je fais un petit peu le tour des news des deux dernières semaines, je me retrouve parfois à lutter pour trouver des sujets vraiment intéressants dans les actualités. L'essentiel aujourd'hui, ça tourne autour des hauts et des bas des marchés, de la crypto-monnaie, de la spéculation et tout ça, ou alors des atermoiements institutionnels autour de la régulation des cryptos et tel État américain qui a décidé que ça c'était des securities et tel État européen qui a décidé que en fait ils prenaient aucune décision. Enfin bref, c'est pas très intéressant tout ça, ça c'est pas bien transcendant. Et en même temps, il y a plein d'autres sujets intéressants à évoquer plus en profondeur et de manière un peu plus cohérente pour aller toujours plus loin dans ce qui sont les missions du podcast. Je vous rappelle, c'était éduquer, influencer et promouvoir. Donc, j'aimerais bien introduire une nouvelle rubrique dans le podcast à côté de l'édito de Plume et de l'actualité qu'on continuera à couvrir, mais de manière peut-être un peu plus rapide. Je vais appeler ça les dossiers du Proof of Cast. Donc, l'idée, ce sera de couvrir un sujet particulier en profondeur sur chaque épisode pendant environ 15 à 20 minutes, mais donc de faire un peu plus de recherche et de vraiment expliquer ça plus en profondeur et d'alterner entre différentes catégories de sujets comme par exemple des profils de personnalités de l'écosystème, des analyses des différentes blockchains et crypto-monnaies ou encore des explications sur les technologies clés de la décentralisation. Et surtout, l'idée, c'est de s'appuyer sur votre avis pour choisir les sujets qu'on va aborder. Donc pour ce faire, je vous ai mis en place un petit sondage qui est consultable sur dossier.proofofcast.com ou singulier au pluriel dossier, on s'en fout, c'est pareil, ça marche pareil, sur lequel vous pouvez voter pour les propositions sur lesquelles vous aimeriez le plus qu'on fasse des épisodes. Et bien sûr, dans chaque catégorie, vous pouvez proposer vos propres sujets, évidemment on n'a pas tout listé, et je les ajouterai dans le sondage pour que tout le monde puisse voter dessus. Et même à la fin du sondage, vous pourrez vous-même proposer vos propres catégories auxquelles on n'aurait pas pensé.
Non, cette catégorie-là, non, on n'y avait pas pensé, mais on te voit venir. Non, sinon, le Proof of Cast reste un podcast familial. Non, mais sans blague.
Oui, non, effectivement, je l'ai pensé trop fort, peut-être, même jusque non, depuis la Thaïlande.
Tu l'as entendu, comme moi. Il voulait qu'on fasse un sujet sur Ripple.
Pardon, mais à culpa, comme j'ai dit à mon premier l'autre jour. Donc, je termine quand même sur la fin du sondage. Je vous ai laissé un gros champ texte sur lequel vous pouvez ajouter vos propres suggestions de catégories de sujets auxquels on n'aurait pas pensé et donner par exemple des exemples de sujets dans chaque catégorie. Donc, comme on vous l'a toujours dit, ce podcast c'est aussi le vôtre et vous pourrez maintenant aussi participer encore plus activement à sa programmation. Donc rien de bien sophistiqué pour l'instant, j'ai juste mis en place un simple typeform qui encore une fois est disponible sur dossier.proofofcast.com et je vous l'inclurai dans le blog post de cet épisode et probablement des prochains puisque le premier épisode avec le premier dossier du Proof of Cast, ce sera probablement l'épisode 24 qui sera l'épisode anniversaire des 1 an du Proof of Cast, donc qui sera diffusé le 30 mars. Donc vous avez 2 mois pour voter pour les sujets qui vous intéressent le plus, pour proposer vos sujets auxquels on n'aurait pas pensé, et on tirera les conclusions de tout ça pour voir qu'est-ce qu'on abordera à l'avenir, et peut-être même pourquoi pas changer aussi le mode de sondage, pourquoi pas même, je sais pas, manger notre propre bouffe à chien et aller mettre en place un sovereign de démocratie heurte, je sais pas, peut-être, qui sait, si c'est intéressant, on verra bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voter, à donner votre avis sur dossier.proofofcast.com. Dernière chose, donc bah voilà, ça clôture en fait cet épisode 20 du Proof of Cast. Encore une fois, je vous invite toujours, comme à l'habitude, à laisser vos commentaires et vos questions sur soit sur le blog post de l'émission, soit sur Twitter, Facebook ou autre. Laisser bien évidemment vos reviews avec moult étoiles sur iTunes et autres plateformes de podcast. Et on va se retrouver pour l'épisode 21 qui se tiendra le 16 février, qui sera diffusé le 16 février. D'ici là, est-ce que Ploum, tu peux nous rappeler où on peut te retrouver ?
Eh bien, sur Ploum.net, tout simplement.
Voilà, il y a plus
comme
de
toujours.
Comme toujours, le blog de Ploum, c'est là où vous retrouvez ses écrits. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur le blog de l'émission. Il y a aussi le cours en ligne sur Udemy, pour lequel vous avez toujours accès au code Proof of Cast pour avoir le cours pour 10 euros, qui vous permet d'apprendre à développer des smart contracts sur Ethereum. Vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast Les Technos, sur lestechnos.be. Et comme je le disais, le prochain épisode, c'est donc l'épisode 21, le 16 février. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Merci à toi, Ploum.
Merci à toi et merci à vous aussi.
Et donc, à bientôt pour un nouvel épisode du Proof of Cast. Au revoir.
Salut. Ciao.